Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Antoine Robitaille. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, grande première au Manitoba la semaine dernière. Cette province est la première dans l'histoire à avoir élu un premier ministre issu des Premières Nations, Wab Kinew. Eh bien, j'en discute avec Félix Mathieu, qui analyse cet événement pour nous. Il est professeur à l'Université de Winnipeg. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix.
Émotionnel ou rationnel? Rationnel. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
Bonjour, Guillaume Lavoie.
Antoine Robitaille, bonjour.
Expert en politique publique et chef du parti du covoiturage.
On va voir, on est en train de gagner des membres. Là,
oui, tour, hein?
Route par route, rue par rue, rang par rang, bientôt près de chez vous.
Il n'y a pas de match parlementaire aujourd'hui, puisque ici, on est en semaine de circonscription. Donc, les élus sont dans leur circonscription et parfois... ils prennent des moments de vacances, ils ont bien le droit, ils le méritent. Donc, on va reprendre le segment vélo-économie qu'on fait habituellement le lundi, parce qu'on aime ça, parler de vélo, puis on a de plus en plus d'adeptes qui nous écoutent sur deux roues ou parfois même sur quatre roues.
Oui, mais surtout qu'on en parle avec une rhétorique nouvelle. Comme je te dis, on n'en parle pas parce que c'est gentil, parce que c'est pour l'air pur, parce que ça nous garde en santé, parce qu'on mange de la luzerne, ça c'est bien gentil. Mais parce que c'est, et là j'en parle...
Tu veux dégranuliser le vélo?
Voilà, hein? t'as compris.
C'est ça!
Pour moi, le vélo, quand c'est faut en faire quelque chose, il faut que ce soit une discussion tout à fait naturelle et évidente dans les chambres de commerce, chez Investissement Québec, à la Caisse, au Fonds de solidarité. C'est de l'économie, c'est de la performance, c'est de la productivité. Et là, je me disais, de quoi est-ce qu'on peut parler? Puis j'ai eu une nouvelle assez extraordinaire. Il y a eu cette déclaration commune et solennelle des trois plus importantes organes politiques de l'Union européenne. C'est-à-dire
ouais.
Le Conseil de l'Union européenne, qui n'est pas tout à fait ça, mais un peu genre le Sénat, le Parlement de l'Union européenne et la très, très puissante Commission européenne.
Ouais.
Et là-dessus, pour la petite histoire, moi, j'y ai été un stagiaire parmi d'autres en 2001-2002. Et c'est fascinant, là. C'est véritablement l'exécutif d'une des constructions politiques les plus importantes au monde. Juste pour rappel, Antoine, l'Union européenne, c'est 27 pays,
ouais.
450 millions de personnes. Même si les Français n'acceptent pas le mot, c'est une fédération, une monnaie, une frontière et un seul marché d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs européens et des travailleurs européens. Est extraordinairement puissante au plan réglementaire parce que l'Union européenne ne fait pas de loi ou la Commission européenne ne fait pas de loi, elle fait des directives, c'est-à-dire voici ce qui doit être et chacun des pays membres doit l'enchâsser dans ses propres lois. Par exemple, jusqu'à presque 60% des lois françaises émanent de Bruxelles.
Oui, alors on a ce gène. Les Français, pas toujours ça. En tout cas, les Britanniques, eux, ils étaient tannés.
Oui, puis là, tu vois à quel point ils ont fait un bon choix. Là, aujourd'hui, ils seraient prêts à voter dans un référendum pour y retourner, mais c'est de la gouvernance à multiples niveaux. Alors, des tensions dans une fédération, c'est la normalité de la chose.
Ouais.
Mais il y a trois gouvernements dans le monde, là, au plan de l'importance réglementaire et de l'impact sur les marchés. Il y a la Chine, il y a les États-Unis et il y a l'Union européenne.
Ouais.
Alors, quand un des trois dit quelque chose en plus sur le vélo, ben, on porte oreille. Et là, c'est énorme. C'est une déclaration sur pour une politique vélo au niveau de l'Union européenne.
Okay.
Évidemment, on parle, en gros, je résume, là, le vélo, c'est l'avenir, ou l'avenir est vélo. Évidemment, pour des objectifs environnementaux, de mobilité, d'aménagement, de réduction des inégalités. Mais très rapidement, on tombe dans du concret, pour pas dire dans du concrete, dans du béton.
Ouais.
On dit que ça va prendre des infrastructures de qualité. Et là, nommément, on dit en site propre, et réservé, pardon, et protégé. Donc, ça veut dire pas juste de la peinture sur le bord de la route, là. Littéralement, ce que vous avez à Québec, là, l'espèce d'autoroute vélo ou le rêve à Montréal,
oui.
C'est ça maintenant le nouveau standard. Et l'Union européenne dit c'est là qu'on s'en va. Et ça va prendre des dollars publics pour en faire et en faire plus. Alors, c'est pas rien, ça. Et quand on parle de véloéconomie, tu sais, mes vieux chiffres de véloéconomie, quand je parlais de l'Union européenne, ben là, je suis trop vieux.
OK.
Parce que, Antoine, quand.
Il faut les mettre à jour.
Ben, alors, quand je t'en avais dit mes vieux chiffres, c'était que la véloéconomie, l'économie du vélo, ça comptait pour à peu près 635 000 emplois dans l'Union européenne. Mais là, mea culpa maxima, c'est pas ça le bon chiffre, c'est 1 million. Et là, je prends la déclaration de l'Union européenne qui dit la véloéconomie, l'industrie du vélo, c'est 1000 PME. Et 1 million d'emplois avec un potentiel que ce soit encore bien plus. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont se donner une politique d'abord de données. Au Québec, on n'a aucune idée de l'importance réelle de ce marché-là. On a des données parcellaires ici et là. Mais eux, en Union européenne, ils en ont plus que nous, mais ils disent qu'il faut vraiment pousser ça plus loin parce qu'on ne peut pas bien aligner des politiques sur ce qu'on ne connaît pas. Beaucoup de dollars à venir pour faire des infrastructures, mais aussi aider l'industrie, comme on fait avec l'industrie de l'auto, l'industrie de X ou de Y, et une plus grande coordination du réseau des infrastructures, par exemple, pour de l'interconnectivité, pour pouvoir partir du train au vélo et à l'inverse. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que d'abord, c'est un des gouvernements les plus puissants et significatifs au monde.
Mm-hmm.
Mais tu sais, Antoine, lorsque Joe Biden, dans sa loi sur l'inflation, qui était dans les faits une loi avec des subventions massives pour l'économie verte, bien, on a été obligés, nous, au Canada et au Québec, de très rapidement se dire où on fait la même chose, où on laisse passer le train.
Oui, bien, les batteries, on investit dans les batteries pour ça, entre autres, là, pour concurrencer l'espèce d'offensive de Biden.
Et il a fallu le faire très, très rapidement, là. Parce que c'est là que s'en va un des trois gouvernements de la planète.
Mmh.
Et c'est un marché important. Mais là, il y a un des trois gouvernements de la planète qui dit l'avenir est vélo. Nous, on va mettre des politiques et des dollars pour ça parce que c'est une industrie majeure, créatrice d'emplois et qui domine maintenant la croissance économique. Bien là, on a le choix. Je veux dire, avec Biden, on ne voulait pas manquer le train. Ici, est-ce qu'on va vouloir manquer le vélo? Sans faux jeu de mots. Alors peut-être qu'il va falloir nous aussi se dire c'est pas normal que l'Union européenne ait une politique vélo et que nous, on n'en ait pas. Et là, je parle d'une politique économique du vélo. Alors, ça me ramène, il faut que le ministre Fitzgibbon ait dans son portefeuille quelque chose qui s'appelle vélo, ne serait-ce que, soyons modestes, pour documenter la chose au départ. C'est certainement la première de toutes les étapes qu'il y a à venir.
Parlons maintenant d'un tout autre sujet, le conflit israélo-palestinien qui a été malheureusement redémarré donc ces derniers jours. Là, je veux que tu me racontes 2006, tu étais en Cisjordanie quand il y a eu des élections législatives de l'autorité palestinienne, puis le Hamas avait été élu. Rappelle-nous un peu, puis raconte-nous comment tu avais vécu ça comme observateur étranger.
C'était vraiment quelque chose. D'abord, des élections comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Il n'y en a pas eu depuis.
Non.
Et ça, c'était les élections pour les élections législatives. Alors, moi, dans mon passé, puis j'en fais encore beaucoup, là. J'ai fait beaucoup, beaucoup dans mon passé, Antoine, de missions d'observation électorale à l'étranger. Alors, j'ai été des fois, c'est comme une structure militaire, là. Des fois, tu es comme un soldat de troupe. On appelle un observateur court terme.
Oui.
À peu près une semaine, 10 jours. Des fois, j'ai été comme une espèce de colonel ou des fois dans l'équipe cadre. J'ai été au Népal pendant 6 mois J'ai été dans des pays à peu près partout sur la planète. Ça m'a permis, par exemple, d'aller deux fois en République pseudo-démocratique du Congo. C'est exceptionnel comme expérience pour voir sur le terrain des moments CNN, mais aussi de prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain que tu ne pourrais pas avoir autrement ou difficilement autrement.
Mais qu'est-ce que alors, tu fais? Peux-tu reprocher, comment dire, la façon dont ils font des élections là-bas? Peux-tu émettre des reproches, par exemple?
Oui, et là, ce qu'il faut distinguer, puis là, on parlons d'observation électorale 101, c'est une démarche presque scientifique. L'observateur tout seul n'a pas d'opinion. Il regarde, il documente, et tu sais, pour qu'on puisse dire qu'il y ait fraude, c'est qu'il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait un pattern, donc on voit quelque chose qui s'est répété dans plusieurs endroits, mm-hmm. et il faut que ça ait un impact sur le résultat. C'est par exemple, moi j'avais fait les élections de la Révolution orange en Ukraine. Là, on avait inversé les résultats, mais pour être capable de savoir ça, c'est que le chef de mission qui peut parler intelligemment de ça parce que lui est le seul qui voit la forêt. Moi, okay. comme observateur court terme à ce moment-là, j'étais dans un quartier de Ramallah.
Tu vois l'arbre. Ouais.
Alors, tu vois l'arbre, tu le documentes parfaitement. Mm. Puis là, ben, ton rapport accumulé avec d'autres donne un portrait général.
Ça s'était bien passé en 2006?
Relativement bien passé. Il y avait eu des petites frousses ici et là. Il y avait des grandes préoccupations sécuritaires. D'ailleurs, la mission, à la dernière minute, avait décidé de se tenir uniquement en Cisjordanie et d'envoyer, je pense, qu'une personne ou deux du côté de Gaza à cause de préoccupations sécuritaires. Mais le Hamas avait été élu et ça, c'était un choc pour la planète.
Ben oui.
Parce que traditionnellement, c'était l'autre parti, le parti de Yasser Arafat, historiquement,
c'est le
Fatah. Et l'élection, bizarrement, c'était pas joué du tout sur quelle est votre opinion par rapport à Israël. Alors, le Hamas a toujours été la ligne dure, disons-le, parce qu'on va revenir là.
Mm-hmm.
Y en a qui sont pas capables de dire que c'est une organisation terroriste. Ça l'est. Leur but dans la vie, c'est
d'éliminer... pas une opération militaire là, qui a eu lieu.
Non.
Là.
Alors, hein? Ça, c'est je veux dire, il y a des moments honteux dans la vie quand des leaders politiques refusent de dire le mot terroriste en parlant du Hamas. Mm. Il y a des couardises organisées. Là.
Mm.
Mais fondamentalement, le Hamas avait gagné à l'époque parce qu'il y a énormément de corruption, parce que les Palestiniens voulaient avoir des écoles, des hôpitaux. Bref, il y avait presque un certain espoir de pouvoir faire quelque chose. Mais il faut savoir que le Hamas, depuis, est revenu au sentiment premier de sa création, c'est-à-dire l'élimination de l'État d'Israël, l'anéantissement de l'État d'Israël et de sa population. Et il terrorise tant l'État d'Israël que la propre population palestinienne,
oui.
particulièrement à Gaza, parce qu'il a un agenda islamiste radical. On est essentiellement presque dans les polices de la religion du type de l'Iran. Là.
Mm-hmm.
Alors, de voir qu'au Québec, il y a des manifestations en appui au Hamas, c'est particulièrement honteux, parce qu'il est tout à fait possible... soutenir la cause palestinienne qui a des griefs tout à fait légitimes de reconnaissance juridique, de reconnaissance de territoire, de reconnaissance de souveraineté, ça n'a rien à voir avec une critique sur le Hamas.
Mais non.
Et c'est là où est-ce que l'espèce d'amalgame entre les deux permet aux fins finaux de se sauver. Là. Mm-hmm. Quand vous entendez il y a des bonnes personnes des deux côtés où il faut savoir, il faut relativiser, c'est très dangereux. Et c'est un piège particulier dans lequel tombe ou existe la gauche plus radicale. Regardez en France, la France insoumise. Le bordel est pogné là-bas parce que même le Parti communiste français, Antoine, dénonçait le Hamas comme une organisation terroriste. Mais une vaste partie de la gauche, qui est essentiellement l'alter ego de QS chez nous, refuse de dire ces mots-là. Et il y a certains élus de QS... ou encore à Montréal, qui refusent de dire
qui?
Hamas, organisation terroriste. Ben, par exemple, pas tous, là, mais Haroun Bouazi, le député de
Maurice Richard.
Québec solidaire, de Maurice Richard, donc ONCIC, lui, c'est toujours la même rengaine. Là. Je condamne la violence des deux côtés.
Mm-hmm.
On est même allé à la mairie de Montréal à dire je regrette les attaques militaires du Hamas. Des attaques militaires, là, vous allez voir des images bientôt qui commence à arriver, des familles, des femmes et des très jeunes enfants assassinés et brûlés. Là.
Mmh, ouais,
ça, ce n'est pas des manœuvres militaires, c'est des manœuvres terroristes.
Non,
et de ne pas être capable de le dire, ça pose des questions à quelle allégeance et pourquoi. Et ça, c'est troublant. Là. Alors, je suis fier de voir que Ici, ben, on met les drapeaux en berne, puis au niveau, à tout le moins, du gouvernement du Québec, il n'y a pas d'hésitation à être capable de dénoncer le Hamas comme une organisation terroriste. Et ça ne fait pas de ça un chèque en blanc pour la cause unique de l'État d'Israël, comme si les Palestiniens n'avaient pas des causes légitimes. Mm-hmm. Mais cette espèce d'amalgame entre les deux nuit à tout le monde, et là, il va y avoir véritablement un dérapage profond.
Il y a Ruba Gazal qui a écrit « Je condamne toutes les violences en Palestine et en Israël. Je condamne le gouvernement israélien d'extrême droite. Je condamne les actes du Hamas. » Elle le dit. « Je condamne l'apartheid subi par les Palestiniens. Il faut appeler à cesser toute escalade de violence. » Elle a dit ça le 7 octobre dernier.
La seule chose dans son... Évidemment, condamner les violences fort bien, c'est cette idée de dire « je condamne le gouvernement d'extrême droite », pas que je défende le gouvernement actuel de l'État d'Israël, mais dans les démocraties, on n'a qu'un seul gouvernement à la fois. Mm. Alors, si ce gouvernement-là, puis les gouvernements à gauche n'ont pas été plus mous dans la défense des intérêts d'Israël, là, au contraire, alors que ce soit un gouvernement d'extrême droite, que ce soit un gouvernement de gauche ou de centre, il n'y a qu'un gouvernement de l'État d'Israël. Et on ne voudrait pas, par exemple, que quelqu'un condamne le gouvernement de la CAQ mmh. du Québec. Il n'y a qu'un seul gouvernement à la fois. Et là-dessus, une posture plus institutionnaliste est peut-être un meilleur garant des relations internationales que l'on veut envisager dans l'avenir.
Mmh. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie.
Ben, au plaisir.
On se reparle seulement dans une semaine parce que je fais une petite pause à l'animation de « Là-haut sur la colline ».
Bon, mais on reprend ça dans une semaine.
Salut, merci.